CFM Lacaune, le mag.
Aujourd'hui sur les ondes de CFM, je vous propose de parler de Natura 2000 et des sites Natura 2000 qui sont gérés aussi par le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Pour parler de ce sujet-là, aujourd'hui je suis avec Juliane Casquet, elle est animatrice Natura 2000 pour le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Bonjour Juliane.
Bonjour.
Alors, Juliane, vous allez faire partie d'une série d'émissions sur les zones Natura 2000, présentes notamment sur le département du Tarn ou à la limite de l'Hérault. Et on va parler aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la vallée de l'Arn. Mais avant de parler de ce lieu géographique précis, qu'est-ce que c'est que Natura 2000, une zone Natura 2000 ?
Alors, Natura 2000, c'est un réseau de sites qui a été mis en place à l'échelle européenne. Donc, des sites Natura 2000, il y en a dans tous les États membres de l'Europe. Et ces sites, ils ont été choisis parce qu'on y trouve une biodiversité remarquable, soit en matière d'espèces particulièrement rares, par exemple, soit en matière de ce qu'on appelle des habitats naturels, donc des endroits où vivent les espèces.
Donc, c'est pas forcément que des animaux, on est bien d'accord, ça peut être aussi de la flore.
Tout à fait, ça peut être aussi de la flore ou, comme je disais, des habitats naturels, par exemple, des tourbières. Ça peut être un type d'habitat qui nécessite le fait de nommer une zone Natura 2000.
D'accord, donc ça peut être aussi, on va dire, je ne sais pas, des falaises, des choses comme ça. C'est vraiment, ça peut être aussi une géologie, une topographie.
Oui, tout à fait, oui.
Ok, donc ça c'était juste pour poser un petit peu les limites. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'animatrice de Natura 2000? Quel est votre rôle peut-être? C'est intéressant de le noter. Pour commencer.
Oui, tout à fait, parce que souvent, quand les gens entendent animateur ou animatrice Natura 2000, ils pensent à l'animation pédagogique, par exemple.
Oui.
Alors, c'est une partie de notre travail, mais c'est qu'une toute petite partie de notre travail. Nous, on est animateur au sens animateur territorial. C'est-à-dire qu'on nous confie un territoire, en l'occurrence un site Natura 2000, et on met en lien, en fait, les différents acteurs de ce territoire pour mettre en place des actions pour le préserver.
Donc, on comprend bien que votre travail au quotidien, c'est de connaître ces zones Natura 2000, de les préserver, de trouver des solutions pour les préserver et les faire connaître aussi.
Oui, tout à fait. Et pour nous guider, on a ce qu'on appelle pour chaque site Natura 2000 un document d'objectif. Donc, c'est l'équivalent d'un plan de gestion, si vous voulez, qui a été décidé pas de manière unilatérale du tout. C'est tous les acteurs du territoire qui ont contribué à ce plan de gestion. Et notre travail en tant qu'animateur, c'est de faire en sorte que les actions de ce plan de gestion soient mises en place.
Et du coup, les sites, les zones Natura 2000, est-ce qu'elles sont gérées que par les parcs naturels régionaux ou alors est-ce qu'il y a d'autres entités qui peuvent gérer ces sites-là?
Alors, ça dépend vraiment des territoires. Sur le territoire du parc, par exemple, il y a 16 sites Natura 2000, 14 sont gérés par le parc. Les sites Natura 2000, c'est toujours géré par une collectivité territoriale, donc par une structure publique. Chez nous, c'est beaucoup le parc, mais ça peut être dans certains cas de figure, par exemple, des communautés de communes, des communautés d'agglomération qui prennent en charge l'animation de sites Natura 2000.
D'accord. Alors maintenant, on a bien posé le décor et on va s'intéresser à cette vallée de l'Arn. Alors déjà, on va la situer pour ceux qui ne sauraient pas géographiquement où c'est qu'elle est et quelles sont un petit peu ses spécificités.
Alors la vallée de l'Arn, la partie en tout cas qui est concernée par le site Natura 2000, c'est vraiment l'amont de l'Arn. Donc c'est ce qui se situe en gros entre le lac des Saints-Pères et la source de l'Arn sur 5 communes, donc 4 communes du Tarn qui sont une commune du Tarn pardon qui sont anglaises, qui est anglaise, et 4 communes de l'Hérault. Donc la Salvetâtre et sur Agoutte, Riol, c'est le Soulier. Et c'est à peu près 30 km de cours d'eau, donc vraiment la partie la plus amont de l'Arn et une partie des berges de part et d'autre.
Et c'est une rivière qui est très connue parce qu'elle est, très pure, entre guillemets. C'est vraiment une zone exceptionnelle.
Tout à fait, ouais. Il y a une qualité d'eau qui est absolument exceptionnelle dans l'Arn. Et c'est ce qui fait qu'on y trouve des espèces qui sont très, très sensibles à la qualité de l'eau et qui peuvent vivre que dans des cours d'eau comme ça, qui sont encore très propres et très préservés.
Alors du coup, on va parler forcément de la moule perlière. Alors je vais essayer de pas me tromper. Margaritifera, voilà, c'est ça, c'est son petit nom, scientifique, qui est vraiment présente sur l'Arn et c'est quasiment l'un des derniers ruisseaux, en tout cas du Tarn, où elle est présente.
Oui, c'est ça, c'est une espèce, ça pourrait sembler un peu anecdotique, mais ça l'est pas du tout. Donc c'est une espèce de moule d'eau douce qu'on va retrouver en gros dans peut-être une quinzaine de cours d'eau en France, quelque chose comme ça. En tout cas, une quinzaine de cours d'eau où elle continue à se maintenir et à se reproduire. Donc, elle est effectivement excessivement rare. Et on a la chance, dans la vallée de l'Arn, d'avoir une des plus importantes, voire même la plus importante population de France qui soit encore existante.
Et alors, cette moule perlière, elle a un cycle de vie qui est très, très complexe, ce qui en fait aussi sa rareté et l'intérêt de la préserver.
Oui, tout à fait. Elle a la particularité, en fait, d'avoir pendant les premiers mois de, ou premières semaines, ça dépend des cas de sa vie, une phase parasitaire. Donc, en fait, les larves de mulette perlière, elles vont vivre fixées sur les branchies des truites fario. Ça peut être d'autres espèces, mais sur l'arme, c'est uniquement les truites fario. Ce qui fait que, bah, pour que les mulettes perlières survivent, il faut non seulement que l'eau soit de très bonne qualité, puisqu'elle est très sensible à la qualité de l'eau, mais aussi qu'il y ait suffisamment de truites fario, qui est un poisson qui a plutôt tendance à se raréfier aussi.
D'accord, donc il y a vraiment plusieurs points importants pour que la moule perlière se maintienne. Est-ce qu'il y a d'autres espèces animales ou végétales rares, notamment peut-être dans la végétation ripisylve, puisque c'est vraiment on est vraiment au bord d'un cours d'eau.
Oui, alors les espèces remarquables de la vallée de l'Arve, on peut citer par exemple la loutre d'Europe, qui se trouve, donc qui peut pêcher dans le cours d'eau, mais qui va aussi vivre aux alentours sur les berges pour y avoir ce qu'on appelle ses catiches, donc les terriers en fait, où elle peut passer la journée. On va trouver aussi par exemple des chauves-souris. Donc des chauves-souris qui aiment particulièrement les forêts et les zones humides, comme le murin d'Alcatoé, le murin de Bernstein, la pipistrelle de Natusius. Donc des espèces qui sont pas forcément très fréquentes, mais qui vont aimer cette espèce de mélange de zones forestières et zones humides qu'on retrouve en vallée de l'Arve.
D'accord, donc ça c'est les espèces animales. Est-ce qu'on a aussi des végétaux qui peuvent être vraiment typiques de cette vallée de l'Arve?
Alors, il y en a quelques-uns. Je peux citer par exemple le millepertuis des marais qu'on va retrouver en vallée de l'Arve, qui est une espèce qui est plutôt rare et qui est remarquable.
Et donc, du coup, enfin, on a parlé de la zone géographique, hein, qu'elle se trouvait sur 4 communes, cette zone Natura 2000. Mais en termes de superficie, à peu près, est-ce que c'est très grand? Enfin, c'est pour nous donner une idée.
Alors, c'est un site qui fait à peu près 1500 hectares. En fait, sur sa partie la plus aval, donc en fait, la partie qui concerne le Tarn et une partie du Soulier, c'est vraiment l'Arn et jusqu'à quelques kilomètres de part et d'autre. Sur la partie la plus amont, le site, c'est uniquement ce qu'on appelle le limineur du cours d'eau, donc vraiment le cours d'eau en tant que tel qui est pris en compte. Mais en tout, il fait dans les 1500 hectares.
Cette rivière, l'Arn, ce cours d'eau, c'est vraiment important. Il y a des spécificités, vous le disiez, c'est un cours d'eau qui est très peu pollué, hein, ce qui en fait aussi sa qualité. Est-ce qu'il a d'autres atouts, d'autres spécificités?
Alors, il a la spécificité qui est fréquente sur le territoire, hein, mais d'être un cours d'eau qui est plutôt acide. Et ça plaît à certaines espèces, dont la mulette perlière, par exemple. C'est aussi un cours d'eau qui est très frais, qui a une température assez basse. Et c'est ce qui fait qu'on y trouve des espèces comme la mulette perlière ou encore quelques belles populations de truites fario, puisque ça, ce sont deux espèces qui sont très sensibles à la température.
D'accord. Alors, quand vous dites acide, excusez-moi, hein, je n'y connais rien. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des espèces qui n'y vivront jamais et d'autres qui s'y plaisent vraiment? C'est ça, ça vient d'où l'acidité, je suppose, du sol?
Oui, l'acidité, ça vient de la nature de la roche. Donc, on est sur un socle de roche qui est plutôt acide. Et donc, ça fait que l'eau qui circule dessus a tendance à être acide. Contrairement, par exemple, à un cours d'eau qui coulerait sur un sol qui est plus calcaire. Et ça, oui, ça a un gros impact sur ce qui peut vivre dans le cours d'eau. Donc, déjà, sur la végétation, hein, les jardiniers savent bien qu'en fonction de si le sol est plutôt acide ou pas, il n'y a pas les mêmes plantes qui poussent. Mais aussi sur ce qu'on trouve dans les cours d'eau. Parce que qui dit sol acide dit que tout ce qui est calcaire va être dissous. Donc, très souvent, les animaux qui ont des coquilles, les petits mollusques, etc., ils ont un peu de mal à vivre dans les eaux acides. C'est pas le cas de la mulette perlière pour le coup, qui a une coquille qui est plutôt épaisse et qui supporte bien ce type d'eau-là.
CFM Lacaune, le mag.
Merci d'écouter le mag. C'est la seconde partie d'une émission consacrée aux zones Natura 2000 et plus particulièrement à la vallée de l'Arve avec sa rivière très pure, ses moules perlières, ses loutres d'Europe et puis bien d'autres spécificités. Je suis avec Juliane Casquet qui est donc animatrice Natura 2000 et qui nous parle de cette zone de la vallée de l'Arve. Alors juste pour re-rentrer dans les zones Natura 2000, on n'en a pas parlé, mais est-ce que ces zones sont des réserves, des lieux où on n'a pas le droit d'aller ou au contraire, est-ce que c'est des zones totalement libres d'accès? On va peut-être commencer par cette question et après on va voir les actions qui sont menées plus particulièrement sur la vallée de l'Arve.
En ce qui concerne le point de vue réglementaire, en fait, il n'y a quasiment aucune différence entre une zone Natura 2000 et une zone pas Natura 2000 d'un point de vue réglementaire.
D'accord.
Il y a quelques subtilités, mais c'est vraiment sur des cas très particuliers, pour des très gros travaux, par exemple, ou des très gros événements sportifs qui rassemblent plus de 1000 personnes ou des choses comme ça, où là, oui, ça ne veut pas dire que ça va être interdit, mais simplement qu'il va falloir faire une déclaration supplémentaire au niveau des services de l'État pour qu'on puisse s'assurer que l'événement ou les travaux qui sont mis en place contreviennent pas aux enjeux Natura 2000 du site. Donc en vrai, d'un point de vue réglementaire, ça change pas grand-chose. On peut continuer à se promener comme partout ailleurs, en respectant la propriété privée, bien sûr. Le fait d'être classé en zone Natura 2000, c'est plutôt une alerte en fait pour dire attention, là il y a des enjeux particuliers, donc il faut y faire attention, mais c'est pas du tout une mise sous cloche. Il continue à y avoir les mêmes activités, on peut chasser, on peut pêcher dans les zones Natura 2000, on a les agriculteurs dans les zones Natura 2000, etc. Donc ça n'empêche pas du tout les activités locales. Par contre, ça fait qu'il y a une personne qui est disponible, l'animateur ou l'animatrice Natura 2000, pour justement faire en sorte que ces activités n'aillent pas à l'encontre des enjeux de biodiversité du territoire.
Et du coup, comment vous, en tant qu'animatrice de cette vallée de l'Arne, de cette zone Natura 2000, comment vous, vous préservez, quelles actions vous mettez en place avec le parc naturel régional du Haut-Languedoc et je suppose les communes concernées? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des panneaux d'information? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont mises en place?
Alors, il y a un peu tout ça. On a tout un volet qui est vraiment le volet plus communication, sensibilisation. On peut faire des projets pédagogiques dans les écoles. Par exemple, l'année dernière, on a travaillé avec les écoles de Fraisse-sur-Agoute et de La Salvetat. On peut aussi avoir des événements grand public. On a organisé une sortie nature sur les rives de l'Arne, sur la commune du Soulier, donc l'été dernier. On peut avoir des communications spécifiques auprès des professionnels. On va organiser ça pour 2022, par exemple, pour les forestiers du secteur. Donc ça, c'est un volet de notre action. Mais aussi un gros volet de notre action, c'est tout ce qui est études et suivi sur les espèces qu'on y trouve. Donc via Natura 2000, on peut financer des suivis, par exemple, de la mulette perlière pour voir régulièrement quel est l'état de la population. On a d'ailleurs eu un gros suivi sur la mulette en 2021. On peut donc travailler sur les différentes espèces en jeu que j'ai citées. Et on a aussi ce côté, comme je disais, un peu d'animation territoriale et de mise en lien de tous les acteurs. Par exemple, on a monté l'année dernière un groupe de travail donc sur la mulette perlière qui va créer tout un programme d'action en faveur de cette espèce-là. Et ça, bien sûr, c'est pas le parc qui fait ça tout seul, hein. C'est le parc qui donc contacte les communes, on en a parlé, mais qui va aussi contacter les syndicats de rivières, les fédérations de pêche, l'OFB, les chambres d'agriculture, etc. Et on se met tous ensemble autour de la table et on définit les actions à mettre en place pour la conservation des espèces.
Et du coup, par exemple, pour la mulette perlière, vous disiez qu'il y avait, il y avait vraiment un suivi qui avait été fait en 2021. Qu'est-ce qu'il en est ressorti?
Alors, ce qui en est ressorti, c'est à la fois de très bonnes et des mauvaises nouvelles, malheureusement.
Malheureusement.
La très bonne nouvelle, en fait, ce suivi régulier est mis en place depuis 2005. Et là, 2021, c'est la première année où on observe une augmentation des populations. Parce que depuis 2005, on était plutôt sur des tendances à la baisse. Et là, il y a vraiment une réaugmentation et une réaugmentation franche. On est sur des effectifs records, hein. Depuis qu'on suit la mulette perlière, on n'en a jamais autant vu autant dans l'Arne. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Et en parallèle de ça, on a fait un suivi de la qualité de l'eau. La qualité de l'eau est aussi excellente. Et ça prouve bien que tous les riverains de l'Arne, en fait, jouent le jeu pour faire en sorte qu'on garde une très bonne qualité d'eau. Et ça, c'est un impact positif sur les populations de mulettes perlières. La mauvaise nouvelle, elle concerne plutôt les températures. Parce qu'on a fait un petit peu de suivi thermique et on se rend compte que la température du cours d'eau, elle est en augmentation constante depuis plusieurs années. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, la mulette perlière, c'est une espèce qui est très, très sensible à la température. Donc justement, à cause de ça, on a prévu pour 2022 et 2023 des actions spécifiques sur cette problématique d'augmentation de la température de l'Arne.
Alors, moi, je suis désolée, mais comment vous allez faire? Parce qu'on ne va pas verser des glaçons dans la rivière, je suppose. Donc, qu'est-ce qui va être mis en place pour maintenir la température et la refaire peut-être baisser un petit peu?
Alors, vous avez raison, hein, ce n'est pas du tout facile. Et on se bat un peu contre, j'irais pas dire contre les moulins à vent, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. Mais on lutte un peu contre le climat dans ces cas-là. La première chose qu'on va mettre en place, donc ça c'est une action qui a été financée par le plan de relance, on a obtenu des financements l'année dernière, c'est de replanter des arbres en fait. Dans les secteurs où on a parlé un peu de la ripisylve, donc la forêt de bord de cours d'eau a disparu, de replanter des arbres, et ça permet de faire de l'ombrage et ça aide à réguler les zones en fait d'éclairage intense où la température de l'eau peut augmenter. Ça, c'est vraiment ce qu'on va faire, entre guillemets, à court terme, c'est-à-dire on va planter les arbres le plus vite possible, mais l'ombrage n'arrivera pas de suite. Après, pour pouvoir continuer à travailler sur la température des cours d'eau, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La suivante, ça va être de travailler sur les obstacles, parce que quand il y a des endroits sur le cours d'eau où l'eau est retenue, par un barrage qui soit naturel ou artificiel, c'est un endroit où la température de l'eau va avoir tendance à augmenter, puisqu'elle ralentit. Donc on peut travailler là-dessus. Et la troisième chose sur laquelle on aimerait bien travailler, c'est vraiment tout le fonctionnement des zones humides qui sont de part et d'autre de l'Arne. Parce que si on a des zones humides en bon état de part et d'autre de l'Arne, ça aide aussi à éviter cette augmentation des températures du cours d'eau.
D'accord, donc on voit que quand même il y a des choses qui peuvent être faites sur la température de l'eau. Juste peut-être pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, si on habite du côté de cette zone Natura 2000 ou si on a envie d'aller voir les moules perlières, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire peut-être? Quels sont les bons gestes ou les mauvais gestes à ne pas faire? ou à faire?
Alors, les mauvais gestes, ils sont très simples. Hein. Ce qu'il faut impérativement éviter de faire, c'est de marcher dans le cours d'eau. Parce que, autant quand les moules perlières sont adultes et assez âgées, je l'ai pas dit, mais ça peut vivre jusqu'à 150 ans, donc c'est des animaux qui grandissent lentement, mais toute leur vie, et les plus vieilles peuvent dépasser 10 cm de long. Donc ça, là, on les voit quand elles sont là. Donc là, on peut faire attention à pas marcher dessus. Mais le problème, c'est les jeunes individus, eux, ils ont tendance à vivre enfouis dans le sédiment, donc enfouis dans le sable, on les voit pas. Et en marchant dessus, en piétinant, en fait, on va soulever des sédiments qui risquent de les étouffer. Donc vraiment, la chose à ne surtout pas faire, c'est marcher dans le cours d'eau. Même si on a l'impression qu'il n'y a pas de moule perlière, peut-être qu'elle est là et qu'on ne peut tout simplement pas les voir. Et la chose à faire, c'est simplement d'être patient et de regarder. Depuis les berges, elles peuvent être vues à certains endroits. Donc de prospecter tranquillement et de regarder attentivement dans le cours d'eau. L'eau, elle est vraiment très claire dans l'Arne, aux endroits où c'est pas très profond, on peut les voir même depuis la rive.
Bon, donc on n'hésite pas à être observateur et puis à prendre le temps. Juste, si on veut avoir plus d'informations sur les zones Natura 2000 qui sont gérées par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, on peut se rendre sur le site internet peut-être, il y a des documents.
Alors sur le site internet du parc, on commence à en mettre en place. On est en train de créer en fait un site web qui sera spécifique sur les sites Natura 2000 du Haut-Languedoc, mais il n'est pas encore en ligne. Par contre, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est aller sur la page Facebook qu'on a créée, qui s'appelle Site Natura 2000 du Haut-Languedoc, tout simplement. Et là, vous aurez de l'information très régulièrement sur les différents sites Natura 2000 qu'on anime. Et vous pouvez aussi nous contacter pour nous poser vos questions.
Eh bien, je vous remercie vraiment, Juliane Casquet, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes animatrice site Natura 2000 pour le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. On vous retrouvera pour une autre émission sur la basse vallée du Lignon. Et puis, on aura aussi votre collègue pour d'autres sites Natura 2000. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.